Le docteur Laurence Pesquet, que nous allons entendre maintenant, est médecin généraliste et est plus ou moins spécialisé dans la médecine du sport et va nous parler des mots. À nous d'entendre.
Bonjour, je vais essayer de vous illustrer donc ce qu'on entend par le sens des mots. Donc les mots MAUX ou mots MOTS, ça c'est tout le travail que l'on fait en psychanalyse sur l'ambivalence du mot. Donc tout ce qui est sens des mots, c'est ce qu'on appelle la somatisation. En médecine, on a déjà l'habitude d'utiliser le terme de maladie psychosomatique. C'est un terme que vous connaissez, c'est la migraine qui se déclenche brutalement à l'occasion d'un stress, d'un conflit. La crise de colite qui est aiguë, qui est brutale, qui est douloureuse, qui nécessite un soulagement. Donc en fait, ce qu'on appelle nous comme somatisation, mais qu'on réserve, je dirais, à certains types de maladies, c'est l'expression sous une forme corporelle, donc c'est l'expression sous la forme d'une douleur qui va être localisée en un point du corps, sur un organe, ou qui peut éventuellement déclencher une maladie plus importante, plus générale. Et cette douleur, elle est l'expression d'une souffrance psychologique. Donc c'est le transfert d'une souffrance psychologique sur le corps. Donc c'est vrai que d'un point de vue médical, on n'en parle pas systématiquement, mais on va en parler dans certaines grandes maladies dont vous avez entendu parler, tout ce qui est sclérose en plaques ou des spondylarthrites ankylosantes, où on a depuis longtemps compris que il y avait toujours un facteur stress, donc psychologique, déclenchant la maladie. Et c'est une maladie qui évolue par poussée et qui nécessite donc un équilibre psychologique, je dirais, correct, un équilibre de vie qui soit le mieux possible. L'idéal n'existe pas. Donc en psychanalyse, par contre, tout mot a un sens. Et en fait, c'est le patient qui va arriver au cabinet, qui va parler de sa douleur, qui en même temps va me donner des indications sur la problématique qui est derrière. Donc il va arriver, il va me dire, je suis fatiguée, je ne suis pas bien depuis quelques jours, j'ai la fièvre, je suis grippée. Donc quelque part, l'organisme s'est bloqué, s'est rouillé. C'est déjà une première indication. Vous avez la personne qui va venir et qui est bloquée du dos. Donc c'est la douleur du dos, j'ai mal au dos, j'en peux plus, j'ai mal jour et nuit, la douleur ne passe pas, elle n'est pas soulagée par les médicaments. Je suis minée, c'est l'expression de quelque part, j'en ai plein le dos. Ça c'est une expression, et lorsqu'on le dit à la personne, elle capte très très bien ce que je veux dire. Sinon, vous avez aussi une autre image type, donc c'est la migraine. Alors la migraine, ça c'est la douleur violente, tout ce qui est migraine, tout ce qui est névralgie faciale. Ce sont des douleurs qui sont très violentes, qui sont invalidantes. On en est même arrivé à créer des centres antimigraineux, notamment sur Paris, pour répondre à l'urgence, je dirais, immédiate pour soulager le patient. Et ça, c'est l'image de la pression dans la tête, de l'hyperpression. Et très souvent, d'ailleurs, des gens qui ont des migraines répétitives vont très rapidement nous demander un scanner cérébral pour vérifier qu'il n'y a pas de risque de rupture de l'anévrisme. Donc, on est déjà sur un mécanisme de pression de cocotte minute quelque part. Alors, il est bien évident que le patient qui arrive, je suis médecin avant tout. Je vais entendre sa douleur, je vais regarder d'où elle vient et je vais le soigner. Je ne suis pas là pour lui dire c'est dans la tête, ça va passer et c'est pas grave. Il est hors de question de faire ça. La médecine, elle est faite pour soigner, pour aider. En plus, une fois que la machine est lancée, c'est-à-dire que la douleur est en place, de toute façon, elle est là et la maladie, elle est déclenchée. Donc, même si on travaille sur soi pour voir un petit peu la raison qui a provoqué cette douleur, de toute façon, elle est engagée, il faut la soigner et la gérer avec des médicaments. Mais à partir du moment où la douleur va devenir répétitive. Donc je vais vous reprendre l'exemple des migraines parce que ça parle à beaucoup de monde. Vous avez la migraine 2 jours par semaine, toutes les semaines. À partir de là, bien sûr, vous allez prendre des médicaments. Petit à petit, les médicaments vont faire moins d'effets, donc vous allez être à la recherche de nouveaux médicaments. Donc cette douleur, elle devient invalidante. Invalidante parce que à partir du moment où vous avez la douleur, et vous prenez le médicament, vous avez un délai d'attente entre les deux. Ce délai d'attente, ça peut se passer dans votre vie professionnelle, ça peut se passer dans votre vie affective sur un moment important. C'est une perte d'énergie, c'est une souffrance. Donc, de toute façon, quelque chose qui est, je dirais, bénin au départ pour nous, bien évidemment, hein, comparé à des grosses maladies comme le cancer ou comme d'autres maladies, je dirais, plus générales, de toute façon, devient invalidante. Et je pense que l'intérêt, c'est par les entretiens successifs et devant la persistance de ces symptomatologies ou devant la mise en route d'une maladie beaucoup plus importante, d'amener la personne à s'auto-analyser, s'auto-interroger et voir ce qui, dans sa vie autour d'elle, a pu déclencher en fait cette somatisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous en fait des conflits en nous avec lesquels on fonctionne, hein, des problématiques. Et par moment, selon le relationnel qu'on va avoir dans sa vie affective ou dans sa vie professionnelle, il va y avoir une flambée de ce conflit. Et paf, à ce moment-là, vous avez la somatisation. Alors, je ne vais pas vous faire de grandes théories, mais je vais vous donner quelques exemples de cabinets, de patients qui sont venus, donc de patients que j'ai vus quand même plusieurs fois, d'autant plus qu'il faut quand même... Soit la personne est en auto-interrogation d'elle-même et ça va, mais sinon vous n'allez pas sur un premier entretien lui demander ce qui lui est passé par la tête. Ce n'est pas possible. J'ai une patiente qui est mariée, qui est mère de famille, qui fait de la danse. Et l'été dernier, au cours d'un stage de danse, comme le Xème stage de danse qu'elle a pu faire déjà dans sa vie, elle se fait mal au genou. Elle se fait mal au genou, on en conclut à un problème de ménisque abîmé, donc quelque chose de pas du tout compliqué, elle va voir le spécialiste, on lui enlève le ménisque, et normalement c'est une affaire réglée. Moi je l'ai vue au bout d'un mois, parce que je revenais de congé, au bout d'un mois, cette femme, elle était avec une paire de béquilles, avec en appui sur une seule jambe et avec le genou fléchi. Rien ne marchait. Donc d'une simple opération bénigne, qui aurait dû être réglée en 8 jours, on se retrouvait avec quelqu'un en invalidité complète. Bien sûr, on a refait tous les examens. On a refait la kiné. On est reparti voir le chirurgien. Il y avait une souffrance du genou, c'est vrai, mais qui ne s'expliquait pas par quelque chose de mécanique, qui ne s'expliquait pas et qui ne passait pas. Et donc le chirurgien a conclu en disant « poursuivez la kiné ». Bon, et ça ne marchait toujours pas, bien évidemment. Donc, au bout d'un moment, je lui ai quand même posé la problématique du genou. Le genou, c'est ce que je vous ai écrit là, ça s'écrit aussi le « je » et le « nous ». Donc, je lui ai expliqué que ça renvoyait quand même à une problématique au niveau du couple, puisqu'il y avait eu somatisation sur le genou. Il y aurait pu avoir déclenchement d'une crise de douleur abdominale, de ventre, il y aurait pu avoir une migraine. Non, elle, c'était le genou. Bon, elle est partie. Entre deux, je l'ai revue après un peu plus tard. Et là, entre-temps, elle avait réfléchi toute seule. Et elle m'a dit, mais ça y est, j'ai compris. L'été dernier, lorsque je me suis fait mal, mon mari était en poste de nuit depuis un moment. J'étais toutes les nuits pratiquement seule à la maison avec mes deux filles. Et en fait, inquiète parce qu'il y avait eu un cambriolage quelques semaines avant et je m'étais retrouvée face au cambrioleur dans mon jardin. Donc elle me dit, en fait, pendant toutes ces nuits, où je me suis retrouvée toute seule à la maison, j'ai pas dormi, j'ai veillé sur ma maison, sur mes filles, parce que j'étais inquiète. Alors bien sûr, ça c'est la partie immergée de l'iceberg, hein. Il y a apparente, je dirais plutôt, et il y a le reste. Donc le reste, c'est que ça renvoyait aussi à l'absence du mari. Donc bon, quelque part, un problème affectif, un abandonnisme, bon, et tout ce qui suit derrière. Mais elle a capté le problème et elle m'a dit spontanément, de toute façon, mon mari va reprendre un poste de jour et il va re-rentrer à la maison. De jour où le mari, alors je la suivais régulièrement parce qu'elle allait chez le kiné, hein, qui est dans le même centre, donc je voyais régulièrement si elle posait le pied, pas posait le pied, avec ou sans béquille. À partir du moment où elle a récupéré le mari à la maison, elle a commencé à débloquer son genou. Bien sûr, ça s'est fait avec un travail de plusieurs semaines, mais ce qui ne marchait pas avant a commencé à fonctionner et elle a débloqué son genou. Bon, et maintenant c'est terminé, on n'en parle plus. Bon, ça, c'est des exemples qui sont très surprenants, d'autant plus que c'est la personne elle-même qui a livré la solution et qui a trouvé toute seule, ce qui est très pratique. Par contre, vous avez d'autres personnes chez qui ça ne va pas aller jusque-là parce qu'ils n'en ont pas envie, parce que ça ne les intéresse pas, parce que ce n'est peut-être pas leur mode de fonctionnement. Mais j'en avais une autre personne, c'est quelqu'un qui avait le dos très abîmé et qui était dans les dernières années de travail de sa vie. C'est une personne qui avait mal au dos tout le temps. Alors quand je dis mal au dos, c'est jour et nuit. Hein. Et ça se voit parce que quand il arrivait, il avait le masque de souffrance sur la tête. Bien sûr, on a essayé tous les médicaments qui existent et ça marchait très moyennement. Donc il était en arrêt maladie jusqu'au moment où il a réussi à négocier en fait un plan de départ en pré-retraite, ce qui n'était pas au départ imaginable. À partir de là, il s'est retrouvé en pré-retraite. Je dirais en quelques mois, c'était fini. C'est quelqu'un maintenant qui est à la retraite, qui voyage, qui va en Espagne, qui prend sa voiture. Moi, je le vois régulièrement pour ses médicaments parce qu'il a d'autres traitements. Et je lui demande régulièrement comment va son dos. Et il me dit, le dos, c'est plus un problème. C'est terminé. Donc, c'est simplement quelqu'un qui, en fait, en changeant de dynamique de vie, a réglé ce problème, mais qui correspondait quand même à une souffrance psychologique, puisqu'en fait, d'un point de vue médical, on n'a pas changé ses vertèbres, hein. On n'a rien fait de particulier, et maintenant, il ne prend plus de médicaments, plus aucun médicament pour le dos. Ça, c'est des exemples concrets. Et vous en avez d'autres aussi, et ça vous parle peut-être dans les sinusites. Lorsque vous avez une sinusite chronique, bon, souvent d'ailleurs, les gens qui ont des sinusites très importantes, ils ont le pus dans la tête. Une image de niveau liquide dans la sinusite, mais c'est ça. La sinusite qui persiste, bien sûr, je ne vais pas parler de la sinusite, vous allez faire une fois un épisode de sinusite, bon, vous êtes fatigué, ça ne va pas très bien, vous gérez le problème, vous vous remettez, on n'en parle plus. Hein. C'est la sinusite qui dure ou qui revient tous les mois, tous les hivers. Donc là, vous rentrez dans l'engrenage médicaments, aérosol, c'est un système sans fin. Et là, ça peut se retrouver donc sur des gens qu'on connaît. Ça, c'est l'image, par exemple, d'un ami que je connais qui est plongeur, qui est moniteur de plongée. Donc moi, je l'ai toujours connu en train de plonger, en train de faire de la planche à voile, sans problématique de sinus. Et puis, il y a 3 ans, il a commencé à faire les sinusites. Et une sinusite, et 2 sinusites, et puis petit à petit, tout l'hiver, et après, hiver et été. Donc, il a arrêté de plonger, parce qu'effectivement, ça accélérait le problème. Et puis, donc du coup, il a accéléré la planche à voile. Donc, il m'a dit, je vais me rabattre sur la planche à voile. Oui, alors là, la planche à voile, cet été, eh ben, il est tombé sur sa planche à voile, il a fait un saut, il est tombé, il s'est explosé le pied. Mais le talon, hein, correct, en plusieurs morceaux, là, il a fait 5 mois d'arrêt maladie. Alors là, 5 mois sans sport. Là, on est sorti du pied, mais il lui reste une douleur dans le pied, ce qu'on appelle la pointe dans le pied, justement l'épine dans le pied. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il marche, il a mal au pied. D'accord. Je lui dis, bon, je l'ai revu, parce que là, il refaisait une sinusite. Et là, à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même qu'on arrive à en discuter autrement. Parce que c'est vrai que on peut envisager de traiter. Mais c'est peut-être bien, à un moment donné, d'essayer aussi de sortir de la maladie, d'arriver à travailler différemment tout en restant médical. Donc la dernière fois, je lui ai quand même fait part du fait que le sinus, c'était quand même, la sinusite chronique, c'était l'image du pus dans la tête. Bon alors lui, ça là-dessus, ça ne l'a pas du tout parlé. Mais ça ne lui a pas parlé, mais inconsciemment, ça lui a parlé parce que je lui ai dit, tu ne pourrais pas essayer de changer de sport. Alors la plongée, on avait déjà arrêté, c'était mieux. D'autant plus que c'est moi qui faisais les certificats de médecine du sport et ça me posait un problème parce que ça devenait dangereux. Mais il m'a dit, oui, je fais du vélo. Ah, je lui dis, c'est bien, fais du vélo. Et tu fais du vélo où? Il me dit, autour de l'étang. Ah, bah, je lui dis, on est toujours quand même vers l'eau. Et il me dit, oui, l'eau, je tourne toujours autour. Mais en fait, l'eau, ça renvoie à la mer, à une problématique liée à la mer. Et en fait, depuis qu'il a déclenché ses sinusites et ses problèmes-là, de fractures, etc., il a eu 2 filles. Et ça correspond, toute cette somatisation, à la naissance de sa première fille. Et ça s'est aggravé avec la naissance de la deuxième fille, parce qu'il a eu 2 filles en 3 ans. Sa femme est sage-femme. Bon, il y a toute une problématique au niveau analytique liée à la mère, à l'image de la mère, et qui a été renforcée par la naissance de 2 filles. Il n'y a pas eu de garçon, il y a eu 2 filles. Bon, tout ça, c'est analytique, mais c'est vrai que quand il m'a répondu, mais moi, je tourne toujours autour, bon, inconsciemment, il avait quand même capté le problème. Maintenant, à lui de décanter, et s'il veut travailler dessus, d'en rediscuter. Je lance la perche, c'est lui qui voit après s'il veut travailler, et je pense qu'il y a aussi à chacun de choisir son mode de travail. C'est-à-dire à chacun d'aller puiser dans un système qui lui correspond la façon dont il veut s'interroger sur lui-même. Donc vous avez une conférence en début d'après-midi, par exemple, sur l'art-thérapie, pourquoi pas. Mais ça peut être pour moi le sport, ça peut être rééquilibrer sa vie, ça peut passer par du sport, ça peut passer par une activité artistique, ça peut passer par de la sophrologie, simplement travailler sur la relaxation, essayer de vider, essayer quand même de s'auto-interroger. Ça peut passer bien évidemment sur si l'on désire faire ce type de travail, ou dans des situations, je dirais, particulièrement problématiques, passer par la psychanalyse et là faire un travail en profondeur sur soi. Dans tous les cas, vous avez déjà dans un premier temps la prise en charge médicale, et je dirais que c'est un plus de travailler avec eux sur le sens de leur douleur, sur la localisation de la douleur, qui est toujours quand même une indication, pour pouvoir apporter plus d'amélioration et un dénouement plus rapide au malade pour sortir de sa maladie. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce genre de si vous avez des problématiques sur la somatisation, si ça vous interpelle, tout ce qui est migraine, colite, je pense que tous un jour ou l'autre, vous avez dû être amenés à voir un médecin pour un soulagement en urgence. Est-ce que vous avez des questions ?
J'ai des questions, mais sur ce que vous venez de dire juste avant, sur la façon de concilier le travail de médecin et cette recherche du sens. Alors, il se trouve que je suis médecin généraliste et que je n'arrive et que je n'exerce plus, justement parce que je ne pouvais pas me satisfaire de l'absence de sens, qui était systématiquement une question qui n'avait pas sa place. Enfin, du moins, je n'ai pas réussi à lui faire sa place. Alors, je suis assez étonnée de vous voir vous exprimer sur la possibilité de faire ces deux choses, c'est-à-dire d'accompagner les gens dans la recherche du sens, de ne pas être bloqué sur une seule voie d'approche, tout en restant quand même médecin, c'est-à-dire celui qui est là pour faire taire le symptôme par rapport auquel on est venu. C'est quand même la première des choses, vous l'avez dit en introduction. Comment arrivez-vous ? Moi, c'est vraiment une question très ouverte et je ne sais pas si c'est facile d'y répondre en quelques mots, mais comment peut-on concilier ces deux approches ? C'est-à-dire être le médecin que l'on vient voir et en même temps, est-ce que c'est une histoire de temps, tout simplement ? Est-ce que c'est basé sur le fait que vous allez revoir, essayer de sentir qui a envie de voir les choses autrement et qui ne vient que pour chercher un pansement à son bobo ? Comment arrivez-vous à faire la part des choses et comment menez-vous cette double vie, je vais dire ? Merci.
C'est venu progressivement. C'est-à-dire que, bien sûr, là, j'ai une formation maintenant de psychanalyste qui n'est pas terminée, mais j'ai une formation en cours. Donc, bien sûr, j'ai appris une méthode analytique. Mais c'est vrai que si je reprends le cursus, en fait, je me suis toujours posé le problème du traitement de fond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne revenait systématiquement avec la même douleur, alors les douleurs de dos, hein, les migraines, je cherchais toujours le pourquoi, l'origine, le comment éviter de retomber dans ce système-là. Donc c'est vrai qu'au départ, je le cherchais d'un point de vue médical, c'est-à-dire avec ce que nous, on appelle en médecine les traitements de fond, ou dans les sinusites, ou comme pour les enfants, là, où on donne des traitements de biostim, enfin, les mamans connaissent ça, l'hiver, on donne des traitements aux enfants pour qu'ils arrêtent de tomber malades tous les mois, éviter, je dirais, de rentrer dans le rhume, dans la bronchite, etc. Donc au départ, c'était donner beaucoup de traitements de fond pour prévenir la maladie, pour essayer. Et puis bon, c'était pas effectivement satisfaisant. Après, c'était... Bon, moi, j'ai une formation de médecin sportif, donc c'est vrai que j'aime bien aussi conseiller aux gens de faire du sport et apprendre à se relaxer, avoir un équilibre de vie un petit peu différent. Et puis après, j'en suis venue, oui, à la psychanalyse. Et là, j'ai compris qu'effectivement, on pouvait travailler différemment et que la somatisation, on pouvait l'étendre à toutes les maladies. Mais c'est vrai qu'il y a 5 ans, j'aurais jamais pu parler comme ça, parce qu'à l'époque, bon, en médecine, on parle pas de somatisation pour toutes les maladies, mais on en parle beaucoup dans des maladies à type de diarrhée, sur les intestins. Dans les familles, il y en a ce qu'on appelle les maladies de Crohn, les rectocolites hémorragiques. Enfin, c'est pareil, tout ce qui est sur les intestins, on dit toujours que ça vient pas par hasard, que ça vient quand on a eu un stress, quand on a eu un conflit. Et en fait, après, ça ne se met pas en place sur un premier entretien, ça se met en place souvent sur quelques entretiens et avec des patients que je sens réceptifs. Je ne le fais pas avec tout le monde. D'abord parce que je n'aurai pas le temps, parce qu'en exercice de médecine générale, je n'ai pas le temps. Donc je prends le temps pour des patients que je sens réceptifs et en général, c'est eux qui me donnent l'indication. Ils ont une phrase ou un mot qui fait que je sais que je peux enchaîner. Et à ce moment-là, je prends le temps d'enchaîner. Mais c'est vrai que c'est un choix aussi de travail en donnant plus de temps à l'entretien. au niveau professionnel, et ça pose des problématiques dans l'exercice de la médecine générale de toute façon. Mais par contre, c'est vrai que c'est très agréable parce que les gens vous le renvoient après. Les gens viennent, ils m'expliquent et ils me lâchent des informations qui peuvent être en rapport donc avec l'entourage professionnel. Il y a beaucoup de gens qui se bloquent du dos sur un conflit avec l'employeur, beaucoup, 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 ou sur un métier où ils ne sont pas à leur place. J'en fais tomber l'étiquette, ce qui prévoit un changement. Et ça se voit à ce moment-là. Et alors, des fois, ils arrivent à changer tout seuls. En fait, vous allez leur dire, mais ce travail, il n'est pas pour vous. Mais eux, ils savent comment gérer le truc, ils vont y arriver. Puis des fois, selon la vie que l'on a, c'est difficile, c'est long, et ça demande plus de temps. Et ça se met en place de toute façon. Ça travaille, ça décide. Mais on arrive comme ça à progresser et à aider la personne à s'interroger sur elle, son entourage affectif proche, son entourage professionnel, les parents. Alors les parents, ça ne vient pas tout de suite, mais souvent après, les gens, ils vous parlent du problème de famille. Ils en parlent, ils vont vous dire « oui, mais je suis fâchée avec un tel » ou « dimanche, il y a eu un repas de famille ». Beaucoup, ça, les repas de famille, quand ils reviennent, soit des vacances dans la famille, soit des repas de famille. Alors ça, c'est terrible. Parce qu'en général, il se passe quelque chose. Et en général, donc, je leur demande ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont fait le week-end dernier, ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances, c'est toujours très instructif. Et après, le fait d'en parler, ou on travaille un peu dessus, ou même eux, ils font leur chemin tout seuls. Vous avez des questions ? Ça peut se voir sur des maladies plus importantes. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la petite maladie en médecine. En médecine, il y a malheureusement ce qu'on appelle donc des somatisations plus fortes. Et vous allez vous retrouver avec des pulsions de mort au niveau de l'individu qui vont déclencher une maladie plus importante. Donc à ce moment-là, au lieu d'avoir la simple colite ou la simple migraine, vous allez vous retrouver avec un cancer. Vous allez vous retrouver avec une hépatite. Le raisonnement, c'est que ce n'est pas par hasard que ça arrive sur vous et pas sur le voisin. Vous allez vous retrouver avec un problème cardiaque. Mais vous voyez, des gens, ils vont boire, ils vont fumer toute leur vie, il ne leur arrivera rien. Eux, tranquille. Celui d'à côté, il en fait un peu moins, et lui, il a le problème cardiaque. Alors bien sûr, c'est son organisme qui est déficient, il est plus fragile de là. Alors, il est fragile du cœur, il est fragile du foie. Bon. Mais en fait, c'est à un moment donné l'individu qui retourne contre lui des pulsions destructrices. Et à ce moment-là, il déclenche une maladie. Et je pense que c'est à partir du moment où on se trouve confronté à ce type de problème qu'on a bien évidemment tout intérêt à réfléchir sur sa vie et à se poser des questions.
Merci. Donc une question me vient concernant la formation des médecins, dont je ne suis pas, mais j'ai été patiente aussi quelquefois, dans tous les sens du terme. Et donc ne faudrait-il pas songer à former les médecins en amont, c'est-à-dire en tant que prévention, prophylaxie, c'est-à-dire d'écouter le patient un peu plus sur son histoire quand il vient dans son cabinet, avant que ne se déclenche justement une somatisation, c'est-à-dire dans le cadre d'un suivi tout simplement et d'une écoute. Et ça pourrait aider.
Ça pourrait tout à fait aider, hein, mais bon, je veux dire, c'est au niveau formation, c'est immense. C'est-à-dire que on a besoin de la médecine, bien évidemment, parce que je veux dire, c'est ce que je vous dis, quand la maladie est déclarée, de toute façon, il faut la soigner du mieux possible. Alors le domaine, il est déjà vaste, les études sont longues. Et apprendre aux médecins à écouter le sens, mais surtout à le positiver, hein, c'est-à-dire à ne pas faire de contresens sur ce que dit le malade, parce qu'il y a aussi tout ça derrière, c'est-à-dire ne pas répondre à quelqu'un sur ce que l'on a entendu en se mettant en projection et en contresens, ça s'apprend aussi. Et ce n'est pas de la médecine. C'est intéressant, mais c'est en amont, je veux dire, c'est pas encore, à mon avis, du registre du médical, parce que c'est une autre formation, c'est un autre métier qui pour moi est complémentaire de la médecine, c'est-à-dire que les deux doivent travailler ensemble. Je pense que dans les années qui viennent, ça se développera. Mais ça s'apprend, quoi. C'est le problème toujours de la formation et du savoir, hein.
Oui, mais je voudrais quand même rajouter, chaque individu, chaque personne qui rentre dans un cabinet, ne serait-ce que pour une angine, arrive avec son histoire. Alors le médecin doit être à même, et ils le sont pour la plupart, capable de diagnostiquer l'angine, évidemment, et de la guérir. Mais en même temps, ce patient qui n'est peut-être pas dans un premier temps atteint de quoi que ce soit d'autre plus grave, justement d'entreprendre tout un travail de relation, d'écoute, et ça, c'est vraiment une prévention. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et ça peut tout à fait rentrer dans... Enfin, on devrait se poser les questions de ce côté-là, quoi. Parce que le corps, d'accord, mais... Au-delà de ça, il y a un être humain et ce n'est pas pris en compte le plus souvent. C'est-à-dire on n'entend pas.
C'est ce que j'appelle le médecin de famille. Hein. Je pense que c'est le travail du médecin de famille. Et je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui le font bien, qui arrivent justement à connaître le malade, la famille, à suivre un petit peu tout le monde et à pouvoir sentir à quel moment le malade n'est pas bien dans sa vie. Donc, bien sûr, vous trouverez toujours des gens qui restent, je dirais, assez froids, assez distants hein, dans notre milieu. Mais bon, ça, il y a plusieurs profils de médecins. Je pense que globalement, il y a toujours eu ce qu'on appelle le véritable médecin de famille qui aura toujours, et que je pense que la tendance actuelle est quand même à un développement dans ce sens au niveau du relationnel et de la prise en compte de l'individu sur le plan psychologique. Je pense que là-dessus, on a pas mal progressé. Et on a progressé aussi à partir du moment où on a voulu un peu être plus explicite sur le côté médical. Quand on explique une maladie ou une pathologie, arriver à mieux développer le sujet, à mieux faire partager aux patients ce qu'il a. Ça passe d'ailleurs par la... C'est peut-être un bien, c'est peut-être un mal, mais en tout cas, ça passe par l'ouverture et l'accès au dossier, par exemple, à l'heure actuelle du malade. Puisqu'il y a une dynamique pour que la personne ait accès au patient, le patient ait accès à ses informations et qu'on ne soit pas, nous, détenteurs du secret. Donc, sur un meilleur dialogue.
Merci. Oui, je souffre depuis 4 ans de dépression nerveuse. J'ai été voir bien sûr un psychiatre, ensuite en parallèle une psychologue avec laquelle j'étais en affinité. Mais si vous voulez, comme j'écris des poèmes, une visite, j'avais apporté ce que j'avais écrit sur ma mère qui s'est suicidée. Donc, si vous voulez, à la suite de ça, elle ne l'a pas lu, elle m'a dit « lisez-le vous-même ». Donc, ça m'a travaillé l'intérieur, bien sûr. Et le lendemain, si vous voulez, je faisais une rechute. Et elle m'a dit, venez d'urgence. Mais j'étais tellement très, très remuée que je n'y suis pas allée. La psychanalyse, dans mon cas, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter ? Parce que la psychologue, j'ai eu l'impression que ce n'était pas bon pour moi de remuer mon passé. Et donc, en faisant une analyse, pour moi, qu'est-ce que ça m'apporterait ? Aujourd'hui, ça fait que 2 jours que je suis bien, que je suis sortie de... Parce que j'ai des hauts et des bas, bien sûr, vous devez connaître. Donc, je voudrais savoir ce que pourrait m'apporter une analyse, dans mon cas personnel.
Ouais, je peux essayer de vous répondre, mais bon, je veux dire, moi, je ne suis pas psychanalyste installée. Hein, donc, je veux dire, c'est... J'ai l'habitude de répondre à mes patients en disant que moi, je travaille avec tout le monde. Donc, je travaille avec les psychiatres parce que je pense que quand on n'est pas bien et on a besoin d'un traitement, déjà d'un traitement médical, hein, de médicaments pour retrouver de l'énergie, pour travailler sur soi et puis sortir la tête de l'eau. Je pense que c'est très important. Et dans un deuxième temps, il y a un travail qui peut se mettre en place effectivement dans le cadre d'une psychothérapie de soutien. Donc, ça, c'est avec le psychiatre. Et après, si vous êtes prête en psychanalyse, mais la psychanalyse ne travaille pas sur le même registre, elle travaille sur l'inconscient. C'est une autre démarche qui est tout à fait intéressante. Bon, il y a des moments, je dirais, où on est prêt à le faire et des moments où il faut des fois savoir attendre un petit peu et mettre un petit peu une latence en place et gérer déjà peut-être l'urgence, c'est-à-dire la souffrance qui est aiguë, qui est là. Mais il y a toujours du temps et des rebondissements. Et de toute façon, bon, petit à petit, ça se mettra en place.
Oui, bonjour. Bonjour. Je suis toujours fascinée par la capacité que l'on a à nous autodétruire ou à nous déclencher des tas de maladies. Et je me dis, puisqu'on a cette capacité, pourquoi on n'arrive pas aussi naturellement à le développer positivement ?
Et votre question, c'est exactement, c'est pourquoi on n'arrive pas à se remettre en positif ? Oui, donc à limiter, je dirais, les forces négatives, en gros, hein. Mais parce que en fait, on a notre inconscient. Enfin, bien sûr, si on part sur le système de l'inconscient, on a un inconscient qui se structure entre 0 et 6 ans à peu près. Donc, en fait, en fonction du relationnel fantasmatique qu'on a établi de nos parents, c'est-à-dire que la façon dont on a perçu nos parents, hein, façon fantasmatique, je précise bien, on va se positionner dans l'existence et on va avancer avec un certain nombre de problématiques qui sont en nous. Ça peut être, par exemple, un complexe d'infériorité. Ça peut être une problématique d'échec. Ça peut être une non-reconnaissance, hein, l'impression de ne pas être reconnu dans sa vie. Ça peut être un manque affectif, une immaturité affective. Enfin, ça, c'est des éléments qu'on a en nous, un positionnement, et puis, ma foi, on va fonctionner avec. Seulement, il y a des moments, si vous voulez, selon ce qui va vous arriver dans votre rencontre, dans vos rencontres, dans votre vie, dans votre entourage proche ou sur le plan professionnel, votre conflit, il va exploser. Hein, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en échec sur une situation et là vous allez être très mal. Mais là, comme ça vous renvoie à vous-même et à quelque chose qui est profond, qui est depuis l'enfant, vous n'arriverez pas forcément tout de suite ou tout seul à prendre le dessus sur le négatif. Et donc à ce moment-là, vous avez beau vous dire, en fait c'est ça, des fois vous avez beau vous dire je me mets en échec ou je vois bien là que je suis dans l'erreur, etc. C'est pas pour autant que vous allez trouver la bonne solution pour débloquer le système. C'est débloquer le rouage. Mais sinon, il n'y aurait jamais de problème. Ce serait trop simple. En gros, c'est pour ça. La difficulté, elle est là. La difficulté, elle est d'arriver tout seul à gérer. À gérer. Et on a son enfance, mais on a aussi tout l'héritage transgénérationnel qui est derrière. C'est-à-dire que d'ailleurs, en médecine, on travaille beaucoup déjà là-dessus. Quand il y a des maladies importantes, on regarde au niveau des grands-parents, des arrière-grands-parents, si la maladie, elle ne s'est pas répétée dans le temps. Et souvent, bon, ça se retrouve, on le demande beaucoup dans les interrogatoires. Lorsque vous établissez votre dossier, on va vous le demander s'il y a des cancers, s'il y a des problèmes. En génétique, on va travailler beaucoup en génétique là-dessus. Sur les problèmes qu'il y a eu d'enfants, de fausses couches, etc. Et c'est ce qu'on appelle l'héritage transgénérationnel. Donc on a tous notre propre relationnel fantasmatique à gérer, mais plus l'héritage de la fratrie. Donc c'est quand même du travail. Ce que je voulais dire, une chose, et ça c'est l'expérience de terrain, sur des maladies importantes. Donc, je vais prendre le cancer, c'est quand même ce qui marque le plus. À situation égale, c'est-à-dire vous prenez la même personne, le même sexe, le même âge, la même maladie développée de cancer, le même stade, vous allez lui donner le même traitement ou deux, il y en a une qui va guérir, l'autre pas. La différence là, elle ne s'explique pas d'un point de vue cartésien, d'un point de vue médical. Là, c'est le psychisme qui fait la différence et c'est le psychisme qui va faire que vous allez vous mettre justement dans le positif ou dans le négatif. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, il y a eu mise en place de forces destructrices, de forces négatives, mais il y a possibilité de les bloquer. Et je pense que, enfin pour moi, mais ça c'est de l'expérience de cabinet, de gens que j'ai vu guérir alors qu'on les avait jugés condamnés et on ne s'est pas expliqué pourquoi, mais ils ont guéri. Parce qu'à un moment donné, il y a l'individu et son psychisme, et c'est ce qui fait la différence. Et donc, en fait, j'ai coutume de dire à des patients qui sont conscients de la gravité de leur état que quand on fait des statistiques chez nous, il y a toujours le pourcentage de ceux qui s'en sortent. Donc, on peut être dedans. Donc, à tout moment, on peut se repositiver, soi-même tout seul ou en se faisant aider.
La somatisation, c'est bien le langage du corps. Et Guy Corneau le dit lui-même lorsqu'il a vécu son expérience personnelle. Le psychanalyste qu'il avait rencontré lui avait dit que la partie malade en lui était la partie la plus saine. Je crois que c'est vrai qu'à partir du moment où le corps commence à parler, alors on peut lutter, on peut, la chose est découverte, alors on peut s'autoriser, si on veut, à développer le positif.
Oui, c'est ce qu'on appelle mettre le doigt dessus, hein, sur ce qui fait mal. Et c'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que tout le monde ne pense pas comme ça. Et bon, ça, c'est un type de fonctionnement et un type de pensée. Et il y a des gens qui ne le disent pas, je dirais, au conscient, mais qui fonctionnent comme ça, inconsciemment. Donc ça marche très bien quand même. C'est le plus important.
Oui, je disais qu'il y avait aussi des gens pour qui c'était une fatalité, le cancer. Et on a beau leur envoyer que ça ne se transmet pas forcément de génération en génération par hasard, ils vont peut-être pas pouvoir se questionner effectivement, parce qu'ils sont dans ce processus de se dire, effectivement, c'est transmis de façon génétique, donc on ne va pas venir y répondre par la psychanalyse. Et ça qui est dommage, peut-être. Oui, les amis, mais... en même temps, à pouvoir se questionner autour de ce qui se joue.
Mais je vois à côté de ça, même sans passer par la psychanalyse, moi j'ai un patient donc, qui avait développé donc, un cancer important et qui était donc jugé, je dirais, en reprise évolutive de sa maladie, etc., condamné. Et puis il est arrivé, c'est lui-même, hein, il m'a dit, moi je change d'équipe. Pourquoi pas ? De toute façon, là où il allait, c'était très bien aussi. Et en fait, je pense qu'à un moment donné, simplement, quand il m'a dit, je change d'équipe, ça veut dire, je change tout court. Mais bon, et en fait, il s'est mis en dynamique de s'en sortir et il est guéri. Et moi, un mois avant, j'avais eu le spécialiste au téléphone, il m'avait dit « prévenez sa femme ». Ça fait quand même un drôle d'effet. D'autant plus qu'entre-temps, moi, j'avais commencé à prévenir la femme. Donc après, je suis bien. Mais non, parce que c'est ça, il y a tout ça aussi. Hein. On vous dit « prévenez la famille », vous commencez à faire votre travail, parce que c'est votre travail quand même. Et puis sur ce, renversement de situation, tout va bien, tant mieux, mais les gens ne comprennent pas toujours pourquoi non plus. Enfin, dans l'autre sens, c'est pareil, ça surprend.
Oui, bonjour. Vous avez parlé des problèmes de colite néphrétique, d'intestin. Donc, j'associe les maux d'estomac, les choses comme ça, les ulcères, les choses comme ça. Est-ce que ça a une signification ? Parce que je peux peut-être donner un exemple qui est le mien. Je n'ai jamais eu de problème, même pas une migraine. Et là, actuellement, je suis en fin de thérapie qui a été très longue. Et donc, j'aborde des choses difficiles. Et j'ai de façon récurrente des maux d'estomac, des problèmes d'intestin, des choses comme ça. Est-ce que ça a une signification particulière ? Bon, je sais que le corps parle, mais exactement, qu'est-ce que ça veut dire ?
Voilà. Mais en fin de thérapie analytique ou thérapie en soutien psychothérapeutique ?
Analytique, j'ai fait plusieurs tranches, en fait.
D'accord. Il n'y a pas un schéma type, hein, puisque vous travaillez sur vous. Il n'y a pas non plus un schéma, une atteinte de l'estomac égale telle problématique de l'inconscient. Hein, il y a un individu avec toutes ses facettes, avec toutes ses caractéristiques. C'est vrai que d'un point de vue analytique, tout ce qui est intestinal renvoie plus à des problèmes de rétention. Donc à une problématique de mise en rétention qui renvoie à la petite enfance. Donc après, c'est là-dessus que vous allez travailler, ou en tout cas, c'est ce qui est en train de sortir actuellement. D'accord ? Donc, c'est une somatisation sur le moment, mais qui renvoie à une problématique de ce type-là. Mais attention, bien évidemment, il faut prendre ça en fonction de l'individu. On ne peut pas avoir de schéma type, ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que si vous avez, par exemple, une pathologie de la sphère, ce qu'on appelle, nous, la sphère urogénitale chez la femme, c'est-à-dire vessie, utérus, tout ce qui est infection urinaire à répétition, ou tout ce qui est infection vaginale à répétition, ça renvoie quand même, par exemple, à une atteinte de l'utérus. L'utérus, c'est la fonction d'être mère. Donc, ça renvoie quand même à une souffrance sur ce sujet-là. En plus, ça renvoie à une problématique de couple, parce qu'au bout d'un moment, ça devient très invalidant au niveau du couple. Donc, tout ça, c'est des éléments qui vont se mettre en place, mais qui s'inscrivent dans un cadre complet de la personne, à prendre dans sa totalité. L'important étant de s'auto-interroger. Les dessins suivent. Est-ce que vous avez d'autres questions sur des problèmes de maladie ou sur des problèmes particuliers ou des interrogations par rapport à un fonctionnement médical peut-être ?
C'est encore moi.
Oui.
Oui, je voulais vous poser une question et ça, je pense la comprendre parce que tous ces médicaments que me donne le psychiatre, si vous voulez, en mon fort intérieur, j'ai déjà dans l'esprit que ce sont des mauvais médicaments. Donc, ils ne peuvent pas agir en positif sur moi parce que ma pensée est déjà, avec le verre d'eau et le cachet dans la main, négative. Et ça, j'ai beau lutter, à chaque fois, si on change de médicament, je dis au psychiatre, vous savez, j'ai peur des médicaments. Alors ça, c'est une chose. Si on ne peut pas commencer par le commencement, si vous voulez, hein, après passer par le psychologue et le psychanalyste, je n'en sortirai pas parce que j'ai peur des médicaments. Les médicaments me font peur. Donc au départ, j'ai la tête négative totalement.
La peur des médicaments, c'est dans tous les domaines de la médecine. Hein. Ce n'est pas seulement lié au psychisme. Vous avez des gens qui ont besoin de traitement, mais qui ont peur de l'intoxication, qui ne veulent pas se mettre ce genre de produit dans le corps. Je pense que ça, c'est négociation au cas par cas que l'on fait en tant que médecin avec le patient pour voir ce qui est raisonnable de supprimer, ce qui n'est pas raisonnable de l'être, comment on peut adapter le désir hein, du patient à une réalité, je dirais, quand même médicale. Mais ça, c'est quelque chose auquel on est confronté souvent. Et je pense qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui cherchent à limiter la prise médicamenteuse. Et à la limite, je dirais tant mieux, au niveau de l'évolution. Je pense que c'est pas plus mal. Encore faut-il le faire, quoi.
Oui.
Dans le cas là, de la dame, peut-être que le médicament est un mécanisme de défense. Elle a peut-être aussi un bénéfice à être dans cette maladie.
Ça, c'est du... Oui, mais ça, c'est du cas par cas, si vous voulez, sur lequel je ne pourrais pas intervenir parce qu'il faut être en situation avec la personne et bien la connaître pour pouvoir analyser, je dirais, correctement le problème du médicament et voir aussi les réactions d'avant qu'il y a eu par rapport au médicament. Parce que vous avez effectivement des gens qui vous font du rejet, mais du rejet au sens tellement urticaire et allergique que de toute façon, c'est la panique et vous arrêtez tout. Mais là, ça s'exprime par le corps, mais d'une façon très claire aussi. Hein. Tout ce qui est urticaire, allergie, ça, c'est du premier degré. Hein.
Trou de mémoire et la psychanalyse. Ce que vous pouvez en dire.
Que sur quelqu'un qui arrive avec des pertes de mémoire, je vais déjà commencer par faire un bilan médical avant de me poser un problème analytique. Je vais quand même aller voir ce qui se passe. Déjà pour cerner le problème. Et puis après, de toute façon, trou de mémoire, hein, c'est une difficulté. Ça renvoie à, pour moi, hein, ça renvoie à une difficulté au niveau du psychisme. Et après, c'est en fonction de l'étude du patient que l'on peut en discuter. C'est du cas par cas. C'est voir dans sa vie, dans son entourage, dans son héritage transgénérationnel, parce que là, on part aussi là-dessus, voir ce qui s'est passé. Quelles sont les maladies qui sont sorties et puis les événements qu'il y a eu. Et voir un petit peu pourquoi là, la personne, quelque part, cherche à sortir de la réalité.
Cette image de d'essai de détachement de la réalité me fait penser à... Oui, plus fort ? Oui. Me fait penser à un problème personnel que j'ai depuis... quelques semaines, c'est une rupture dans la perception du temps. Et aussi parce que j'ai des problèmes par rapport à mon espace, enfin des problèmes locaux dans mon domicile actuel. Enfin, c'est lié espace-temps, quoi. Et je me pose des questions parce que c'est répétitif, puisque c'est en me rendant d'une banlieue à une banlieue ou en me rendant à Paris. Et avant, ça m'arrive en métro, mais c'était anodin. Bon, c'était pas signifiant, alors que maintenant, ça l'est. Puisque ça se répète sans arrêt, où je me mets à lire, je ne suis pas dans le présent, quand je me mets à lire, ou même sans lire, je vais, mon esprit va vagabonder, et je m'arrête toujours au premier tiers du chemin, et je ne reconnais pas les lieux, et j'ai l'impression de me trouver complètement ailleurs, alors que ce sont des lieux connus, et voilà. Et je n'arrive pas à ma destination, où j'arrive en retard à un rendez-vous, et même en venant ici ce matin... Ça m'est arrivé aussi, puisque je ne me suis pas arrêté à la bonne station de bus. alors que je connais très très bien le chemin pour venir, enfin, donc, pendant les deux tiers du parcours en tout cas.
Moi, ça m'arrive régulièrement quand je suis en train de penser à autre chose plutôt. Quand j'ai les idées occupées par autre chose, et à ce moment-là, ça m'arrive de me tromper, de ne pas aller au travail, de prendre une autre route et de partir, et de m'en rendre compte au bout d'un moment. Je pense qu'à tout moment, il y a des périodes de sa vie où on est préoccupé par quelque chose. Vous le dites vous-même, vous avez des problèmes de locaux, donc vous savez déjà plus ou moins dans votre question quelle est la problématique en cours que vous n'avez pas réussi à régler, mais ça va... Vous allez trouver une solution. Et donc, pour l'instant, ben, ça vous prend la tête. Ça, c'est pareil, c'est l'image, ça me prend la tête. Et du coup, ben, quand vous êtes en train de faire une activité, votre esprit est ailleurs et vous faites autre chose, quoi. Alors, c'est vrai que ça, c'est pas... C'est gênant. Ça peut poser des problèmes de travail et de rendez-vous, mais ça va, c'est pas trop grave.
Oui, moi je me posais une question, je ne sais pas si en tant que médecin généraliste vous pouvez y répondre. Est-ce que la somatisation, ça concerne absolument tout le monde, tous les individus, toutes les personnes, ou seulement au sens psychanalytique, en fait une forme de névrose hystérique qui est due à des conflits infantiles, etc. Par exemple, je ne sais pas, dans un symptôme aigu, vous changez de travail, vous avez une angoisse, vous allez vous faire un abcès, enfin un truc tout à fait momentané. Bon, vous n'allez pas aller chez le psychanalyste pendant 10 ans, j'imagine. Donc, est-ce que la prise de conscience, en général, d'après votre expérience, suffit toujours à guérir un symptôme, ou alors est-ce qu'on a l'impression que ça relève du psy pour des raisons beaucoup plus profondes, quand il y a somatisation ?
Alors, c'est ce que j'avais essayé de dire au départ, c'est-à-dire qu'il y a toute douleur, en fait, a un sens, mais elle n'est pas forcément invalidante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une somatisation qui est passagère, hein, si vous allez attraper la grippe pendant 8 jours, au bout de 8 jours, vous êtes guéri, bon, point. Je veux dire, vous reprenez votre vie, on ne va pas en faire toute une histoire. C'est à partir du moment où ça devient répétitif, hein, des douleurs ou des maladies qui se répètent tous les mois et que ça devient invalidant et que c'est vécu comme vous, comme invalidant, qu'à ce moment-là, il faut se poser des questions. Parce que la personne qui a la migraine, par exemple, 2 jours par semaine, toutes les semaines, mais qui préfère prendre un médicament à chaque fois toute sa vie, c'est son choix, c'est sa vie. C'est pareil, moi là-dessus, je n'interviens pas. Si par contre, elle vient me voir en me demandant de faire quelque chose... parce qu'elle ne veut plus être dans cet engrenage, là, ok, on peut travailler dessus. Mais en fait, il y a somatisation gênante, invalidante, et voire même dangereuse, où là, il faut se poser des questions, mais on peut les régler soi-même, aider d'un partenaire qui peut être le médecin, qui peut être, je veux dire, des méthodes de relaxation ou de travail sur soi qui sont différentes. Ça peut être la psychanalyse, mais tout le monde ne fera pas une psychanalyse et tout le monde n'a pas envie de faire une psychanalyse, hein, bien évidemment. L'important, c'est quand ça devient gênant et invalidant ou dangereux, autodestructif. Là, je pense qu'il faut se poser des questions. Et c'est là qu'on peut travailler dessus, mais c'est essentiellement à la personne de se mettre en auto-interrogation déjà au départ. Et en fait, je veux dire, moi, je vais intervenir pour l'aider. Pour l'aider à y voir peut-être plus clair ou pour peut-être aussi la sécuriser dans cette démarche de réflexion. Et orienter, s'il faut, hein, surtout orienter.
Nous allons remercier Madame Pesquet.